Quelle joie d'être ensemble et d'ouvrir à la parole de Dieu. Ce matin, on va lire un psaume dans le livret du Cantique des Montées, donc le psaume 133. Et vous avez vu le titre un peu de mon message sur les feuillets. Si vous n'en avez pas, essayez d'en trouver un tout près de vous. Ça vous aidera peut-être à voir un peu les différents points qu'on va aborder dans cette prédication. J'ai appelé ça « Band of Brothers » ou « Frères d'armes ». C'est une série télévisée qui a eu... passé sur nos écrans télé en 2002, donc désolé, mes références sont pas très récentes. Cette appellation frères d'armes, elle désigne un groupe d'individus qui ont combattu ensemble lors d'un conflit armé ou d'une guerre. Et donc cette série, Band of Brothers ou Frères d'armes, elle retraçait l'histoire des soldats de la Easy Company, donc de la 101e division aéroportée, assez célèbre, parce qu'elle a eu une part importante au moment du débarquement en Normandie, et puis plus tard même pour la libération de l'Europe. Et on voit au début de cette série, je vous fais un petit résumé si vous n'avez pas vu, comme ça vous n'êtes pas perdu, vous êtes encore avec moi. On voit au début de cette série les membres qui sont en train d'être formés vraiment durement, à se préparer pour le débarquement, pour toutes sortes de batailles difficiles. Et puis après, donc le reste de la série, c'est différents lieux de batailles historiques. Il y a Bastogne, par exemple, dans les Ardennes, etc. Jusqu'à la prise du quartier général d'Hitler, donc qui sonne la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et ce qui faisait la force de ces frères d'armes, c'est qu'ils restaient liés jusqu'à la fin. Et la force aussi de cette série, c'était de montrer les choses sous un angle assez historique. Donc il y avait beaucoup de recherches historiques. D'ailleurs, au début de chaque épisode, on voyait les survivants, les rescapés, donc des hommes dans les 80 ans qui étaient en train de raconter comment ça s'était passé pour eux. Ils avaient fait partie véritablement de cet événement. Et donc ça donnait un côté documentaire à la série. Nous aussi, on est en train de tracer notre route, n'est-ce pas, dans un monde qui est rendu chaotique par le péché. On a encore été rappelé de ça ce matin. Alors on va lire ce matin un psaume qui est tiré d'une section qui s'intitule « Les Cantiques des Montées ». C'était des chants pour le pèlerinage en route vers Jérusalem. Des chants qui ont été compilés après le retour de l'exil, quand le peuple est en train de revenir aussi vers Jérusalem, de se réinstaller, si vous voulez, dans le pays promis. Et c'est un peu, si on veut continuer l'analogie avec la Seconde Guerre mondiale, entre le jour J, le jour du débarquement, qui était déterminant. S'il n'y avait pas eu le débarquement, il n'y avait pas de victoire après, d'accord ? Donc ce jour J a bien eu lieu, la croix a eu lieu, on a fêté Pâques, on se réjouit de ce que Christ a fait une fois pour toutes pour nous à la croix. Il a défait les armées adverses. Et maintenant, rien ne peut plus arrêter la progression de l'Église. Et en même temps, on vient d'être rappelé encore ce matin, n'est-ce pas? Le jour de la victoire finale n'est pas encore là. On n'est pas encore avec toute larme de nos yeux qui est essuyée. On est encore en train de pleurer parfois. Et donc, il faut continuer à lutter. Il y a des batailles, parfois difficiles, qui surgissent encore devant nous. Et dans ces moments, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, non seulement parce que Dieu est là, il l'a promis, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais aussi, nous avons des frères d'armes, des frères, des sœurs d'armes. En réalité, une nouvelle famille, comme on va le voir tout de suite dans ce psaume 133. Dieu fait la grâce aux membres de son peuple d'expérimenter une nouvelle unité, comme dans une nouvelle famille. Les liens qui unissent les rachetés sont uniques et sacrés. Ça contribue à faire des rachetés un peuple sans pareil, des rois prêtres, une nation sainte au milieu des autres nations. Et cette unité est un cadeau de Dieu, une bénédiction éternelle. Je vous invite à lire cela dans le psaume 133. Chant des montées de David. Qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie, pour toujours. Seigneur, que ta parole soit à l'œuvre dans nos cœurs maintenant. Soutiens-nous pour écouter et comprendre ta parole, s'il te plaît. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Sans nous lasser, nous devrions goûter et apprécier la force du lien familial qui nous unit maintenant en Jésus-Christ. Parce que, voyez cela dans le psaume, comme c'est bon, comme c'est beau pour des frères d'habiter unis ensemble. Pour des frères, mais comment sommes-nous des frères et des sœurs les uns pour les autres? Et oui, il y a un lien familial maintenant qui nous unit, pas un lien biologique, c'est assez évident, on se regarde, on est très différents, on n'a pas les mêmes parents biologiques, mais en réalité nous sommes bien nés d'un même père. Et à l'époque de l'Ancien Testament, à l'époque où le psaume est rédigé, il s'agit de personnes d'une seule et même nation qui ont, eux, dans un sens, un seul père biologique. C'est Abraham, n'est-ce pas? On l'a vu dans Genèse 12. Mais du fait de la promesse de Dieu faite à Abraham, d'une relation spéciale entre Abraham et sa descendance, entre Abraham et sa famille, avec Dieu lui-même, il y a comme une superposition pendant toute la période de l'Ancien Testament, entre le peuple de Dieu et la famille biologique, si vous voulez, d'Abraham. Entre l'Israël ethnique et l'Israël spirituel. Et après Abraham, on voit que donc le peuple grandit, il arrive en Égypte, il grandit encore davantage, il devient véritablement un peuple, bien qu'il soit dans une terre étrangère, il n'est pas encore dans le pays promis. Et Dieu appelle l'Israël à sortir de ce pays. Il le sort de l'esclavage pour l'emmener dans son pays, le pays promis, selon la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et quand il appelle ce peuple, il le désigne comme son fils. Donc l'entièreté du peuple est comme le fils de Dieu. Donc dans un premier temps, ce psaume célébrait la beauté, l'importance de ce lien à la fois ethnique et culturel, selon la promesse de Dieu. C'était un chant de pèlerinage, un peuple en train de monter au temple, un peuple de retour de l'exil, un peuple en marche et dans l'attente de la pleine réalisation des promesses faites à Abraham, de pouvoir vivre une grande nation, une grande multitude, dans un lieu préparé par Dieu, débarrassé de tous les ennemis, dans une relation spéciale avec Dieu. Le repos de la fin de Genèse 1, enfin accompli. Mais la réalité pour les descendants d'Abraham, c'est que ce n'est pas encore pour tout de suite. Et il faut encore attendre un peu. Et pourtant, cette promesse a vu un accomplissement maintenant, en Jésus-Christ. La promesse faite à Abraham, rappelez-vous, elle concernait aussi toutes les nations. Et cela devient réalité lorsque le Fils de Dieu, le Fils parfait de Dieu, qui en lui-même, si vous voulez, il récapitule, il symbolise, il est le type parfait du nouvel Israël, le vrai peuple de Dieu. Quand ce Fils vient, il abat toute barrière ethnique. Et maintenant, il y a des juifs et des non-juifs. Et donc, c'est la porte ouverte pour nous de faire partie aussi de ce peuple, d'être donc ensemble des frères et des sœurs, selon ce que ce psaume est en train de célébrer. Le peuple de Dieu est composé de juifs et de non-juifs. Et donc nous avons un même grand frère, un même Père céleste, le même que celui qui a fait la promesse à Abraham. Et donc, c'est parce que nous sommes nés de Dieu, si nous sommes nés de Dieu, que nous pouvons être des frères et des sœurs les uns pour les autres. Nous sommes nés d'un même Père, spirituellement, en Jésus-Christ. Et c'est magnifique. Et il y a une fraternité donc qui s'installe, n'est-ce pas, entre nous. Cette fraternité, c'est l'expression d'un lien affectif, d'un lien moral, de solidarité qui nous unit en tant que frères et de sœurs. Je me rappelle particulièrement d'un voyage que j'ai pu faire avec la mission Portes Ouvertes au Laos. Et c'était la première fois que des visiteurs étrangers étaient autorisés officiellement par le gouvernement à entrer dans des villages et à aller visiter des églises, donc des chrétiens protestants qui se rassemblaient dans ces villages. Donc ces gens avaient pas du tout l'habitude de voir des visiteurs extérieurs, en plus des gens de l'étranger, des Français et d'autres de différentes nations qui étaient là rassemblés. Et c'était vraiment poignant, ça m'a pris aux tripes, si vous voulez. On n'avait pas le même langage, je ne connais pas du tout le laotien, ou j'avais pas beaucoup de possibilités de partager avec les gens. Mais on était là, on se regardait. Et il y avait une flamme qui brillait juste dans nos yeux, de nous reconnaître en tant que frères et que sœurs. On se regardait, on souriait, parfois un peu gêné peut-être, mais aussi on riait même. On riait de cette joie de pouvoir faire cette visite ensemble. Et puis on a sorti nos portefeuilles et je montrais les photos de Nathalie, de mes enfants. Je montre, et eux, ils me montraient, voilà, celui-là c'est mon fils, celle-là c'est ma femme, celui-là c'est mon mari. Et on partageait comme ça. Et puis on a vécu un culte ensemble, on n'a pas tout compris. Et puis tout d'un coup, hop, un chant qui était le même que nous on chante ici en France. Et puis là, de nouveau, la connexion devenait tellement évidente. Mais oui, nous sommes des frères et des sœurs, même à des milliers de kilomètres, unis par un même Père, un même Esprit. Un autre souvenir de mes voyages, c'est d'arriver après une longue route, en étant parti tôt le matin, peut-être un dimanche, en faisant déjà peut-être 2 heures de route sur des pistes un peu chaotiques, pour arriver dans des villages, dans des régions un peu perdues, en Éthiopie, ou dans d'autres régions comme cela. Et alors qu'on s'approche du lieu de rassemblement des chrétiens, au loin, on commence à entendre déjà les chants de l'assemblée qui s'élève. C'est juste un petit doux murmure au départ. Et puis plus on se rapproche, et plus on entend distinctement les voix qui s'élèvent, les hommes, les femmes, en train de louer le même Seigneur que celui que nous sommes en train d'adorer ce matin. On est dans la nuit, dans d'autres occasions, dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une ville qu'on ne connaît pas, dans un quartier qu'on ne connaît pas, dans une culture qu'on ne connaît pas. Il y a un peu de tension dans les missions que j'avais eu à faire avec les portes ouvertes où voilà, on est les seuls blancs par exemple dans un quartier où il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Et puis peut-être la tension est là parce que c'est une région où les chrétiens ne sont pas les bienvenus. Et d'entendre tout d'un coup le chant des chrétiens rassemblés parvenir aux oreilles. Quel soulagement. Là c'est bon, je suis dans ma famille, je suis en sécurité, je suis avec mes frères et mes sœurs. Et Dieu est là présent. Ce sont des impressions très profondes, inscrites. Peut-être vous avez déjà fait l'expérience de cela, peut-être même en arrivant ici, un jour, à l'EPEC. La fraternité, c'est un état d'unité entre plusieurs personnes. C'est un sentiment qui dépasse l'ego, qui est censé rassembler plusieurs individus pour faire un « nous ». Un ensemble bien coordonné, collectif. Et le contraire renvoie plutôt aux notions de désunion, de discorde, d'isolement, d'individualisme, associé à des comportements alors qui vont aller de la simple ignorance, l'indifférence vis-à-vis des autres, jusqu'à l'inimitié même. Mais pour des frères, pour des sœurs, c'est bon d'habiter ensemble. L'unité est bonne. C'est le même mot comme lorsque Dieu a créé le monde. Il a vu tout ça, il a dit, c'est très bon. Et le péché a gâché tout ça, n'est-ce pas? Caïn et Abel, les deux premiers frères, ne sont plus des frères, véritablement. Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, les fils même de David, Amnon et Absalom, se battent pour la royauté. Adonija et Salomon, pareil, se battent pour la royauté. Et donc, il faut rien de moins que l'intervention miraculeuse de Dieu pour rétablir un véritable lien fraternel entre les membres de son peuple. C'est vrai, d'abord, Dieu sauve individuellement. C'est pas parce qu'on est ici présent au milieu d'un ensemble de chrétiens qu'on est sauvé comme faisant partie du groupe. Mais on n'est pas sauvé parce qu'on est frère d'un tel qui lui fait bien partie de la famille. On n'est pas sauvé parce qu'on est fils d'eux, dans le sens biologique, n'est-ce pas? Ce n'est pas mes parents qui m'ont sauvé. Mais Dieu sauve donc des personnes. Et Dieu ne sauve pas un individu pour qu'il reste isolé. Le projet de Dieu, rappelez-vous, la promesse d'Abraham, c'est une grande nation, un peuple, une grande famille. Les descendants de la promesse d'Abraham par Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez vraiment que l'unité entre des frères et des sœurs, c'est bon. En même temps, depuis Genèse 3, on a du mal à croire, n'est-ce pas? Quand Dieu dit que quelque chose est bon, quand Dieu nous donne quelque chose en disant « ça, c'est bon », on a du mal à faire confiance à Dieu quand il nous dit que quelque chose est véritablement bon. Depuis qu'Adam et Ève ont choisi l'arbre de la définition de ce qui est bon ou mauvais, si je peux retranscrire un peu dans ces paroles-là. L'homme, et l'homme particulièrement sans Dieu, veut sans cesse redéfinir selon ses propres critères, indépendamment de Dieu, ce qui est bon. L'humanité veut sans cesse redéfinir ce qui est bon selon elle. Je veux redéfinir ce qui est bon selon moi. Mais écoutons la parole de Dieu. Dieu dit, c'est bon pour des frères, pour des sœurs, d'habiter unis ensemble. Et aujourd'hui, on est dans une société hyper individualiste. Il faut que je m'en sorte moi. Même dans les couples, cette idéologie est poussée, c'est porté par les mégaphones de la communication de masse qui crient cette idée à chaque instant. Il faut que tu te réalises. Donc, dans ton mariage, ce qui compte, c'est pas que vous soyez unis à deux, c'est que toi, tu puisses faire ta carrière, c'est que toi, tu puisses t'épanouir, etc., etc. Et bien sûr, Dieu veut qu'on s'épanouisse dans le mariage, vous comprenez pas mal. Mais c'est l'individu qui est poussé à l'extrémité. Même les enfants. Même le mariage, donc, et les enfants ne sont pas des événements, des choses qui arrivent, qui sont des choses précieuses. Ces choses-là ne devraient pas entraver ma carrière ou ma quête d'un statut social. Ça, c'est le discours dans lequel nous baignons, n'est-ce pas? Les enfants, très tôt, sont rendus autonomes, obligés de se débrouiller seuls et se construisent eux-mêmes sur un modèle hyper individualiste. Mais pour des frères, pour des sœurs, rachetés par Jésus-Christ, nés d'un même Père, c'est bon, c'est agréable d'habiter ensemble en étant unis. C'est doux, c'est harmonieux, ça va bien ensemble. Il n'y a pas de distorsion, de dissonance. C'est comme un chant, bien orchestré, bien arrangé. Les accords s'enchaînent et ils nous portent, même dans nos émotions, vers des choses positives, des choses bonnes. Les harmoniques, les sons vibrent de façon coordonnée. Vous savez que le son, c'est une oscillation, c'est une vibration, n'est-ce pas? C'est une sorte d'onde. Et si j'avais pas bien accordé ma guitare, ou si on joue avec un instrument qui est pas bien accordé, les ondes se chevauchent et il y a des dissonances. Par contre, quand les ondes sont bien alignées, elles s'amplifient et elles font vraiment vibrer l'instrument et jusqu'à faire vibrer notre âme. Quand une guitare est mal accordée, par exemple, c'est agaçant, ça nous irrite. Mais quand les ondes sont bien ensemble, alors ça nous porte. Ce mot « agréable », il est utilisé dans le Cantique des Cantiques par la Sunamite pour décrire son fiancé. C'est agréable, c'est paisible. Il n'y a pas de friction, n'est-ce pas, quand on est unis ensemble en tant que frères et sœurs. On peut juste profiter de la relation. D'ailleurs, qu'on soit en train de faire quelque chose de très précis ou juste, d'être là, les uns à côté des autres. Les rassemblements des chrétiens servent à vivre cette unité entre frères. Quelqu'un qui n'a pas envie de passer du temps avec ses frères et sœurs est en grand danger. Quelqu'un qui ne voit pas l'utilité de chercher la communion avec ses frères et sœurs. On peut se demander si cette personne a bien compris l'Évangile. La relation qui l'unit à tous les autres membres du peuple de Dieu, sauvés comme lui ou comme elle, doit être compté pour quelque chose dans sa vie. Le désir de passer du temps avec des frères et des sœurs est un moyen objectif